bienvenue à tout le monde. C'est un grand plaisir donc de vous présenter et d'avoir une conversation autour du dernier livre de Susan Kovacs, donc qui est publié en anglais, qui s'appelle Food Information, Communication and Education, Eating Knowledge. Donc, information et communication autour de la nourriture et son éducation, manger la connaissance, avec cette jolie couverture à fruits, donc devant. On ne peut pas toujours avoir des couvertures aussi intéressantes, donc c'est relativement intéressant. Alors, c'est un ouvrage qui est co-publié donc, avec Simona Di Giulio, donc un travail à deux, avec comme idée de ramener ensemble toute une diversité de productions différentes, de chercheurs situés en France, mais également donc, dans le domaine de l'Amérique du Nord et ailleurs en Europe. L'idée est donc, je présume, de parler de comment on communique autour de la nourriture, comment on dérive de l'information. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, en fait, pour toi, s'est fait la genèse de ce livre ?
Merci beaucoup, Malcolm, et voilà, merci pour cette occasion de partager sur cet ouvrage. Avec Simona Di Giulio, qui a préparé l'ouvrage avec moi, nous travaillons depuis une dizaine d'années sur la question de la circulation des savoirs sur l'alimentation. C'est-à-dire pas l'alimentation en soi, qui est devenue un sujet d'étude depuis le milieu du XXe siècle, malgré le peu de légitimité qui est associée à l'alimentation en tant qu'objet d'étude. Les travaux fondateurs de Roland Barthes, par exemple, a lancé une réflexion sur l'alimentation et la dimension communicationnelle de l'alimentation. Mais jusqu'à récemment, il n'y a pas vraiment eu de réflexion sur la médiation des savoirs autour de l'alimentation, c'est-à-dire comment circulent les savoirs experts, les savoirs scientifiques, les savoirs ordinaires, les savoirs vernaculaires, traditionnels, patrimoniaux, et voilà sous quelle forme ça prend et comment matériellement, dans les moments d'apprentissage et sensibilisation, mais les moments aussi de militantisme, des circonstances un peu plus militantes, est-ce que les savoirs arrivent aux individus et voilà, et qu'est-ce qu'ils en retirent et comment voilà, ils réadaptent ces savoirs voilà, dans différentes circonstances. Voilà. Donc c'est un peu la genèse, c'est un groupe de travail qui s'est réuni donc depuis une dizaine d'années pour réfléchir à ces formes de médiation, les médiateurs. Et l'idée c'était de faire un travail interdisciplinaire parce que voilà, comme le titre un peu maladroit finalement, information, communication, éducation, lui suggère, c'est une problématique qui concerne voilà, beaucoup d'aspects. Voilà, donc on a associé, embrigadé des collègues en sciences de l'éducation, en sociologie, en anthropologie, en France et à l'étranger pour réfléchir avec nous, chacun avec leur sensibilité sur ces questions-là. Ma sensibilité en particulier, c'est centrée sur les matérialités documentaires, en fait. C'est sous quelle forme documentaire, que ce soit manuel scolaire, affiche, site web, etc. Est-ce que les informations sont mises en forme et comment ça s'est approprié, recherché par les groupes, les particuliers, parfois des associations.
Il y a également une approche relativement historique, donc c'est pas simplement comment on le gère aujourd'hui, mais il y a des articles qui remontent jusqu'au XVIIe siècle français. La plupart des études sont sur le XXe, voire le post-guerre. C'est une approche interdisciplinaire, historique longue également. Vous a valu donc d'être qualifié d'ambitieux dans le projet sur la quatrième de couverture. Également donc le fait de donc d'éditer un livre écrit tellement par des gens qui ne sont pas tous anglophones. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le processus de fabrication déjà de ce livre, parce que c'est une chose qui frappe immédiatement, c'est la complexité en fait de mettre ensemble ces éléments différents.
Oui, c'est vrai que c'est un ensemble d'études de cas qui avait pour origine un colloque de 2018 qui nous a permis d'ouvrir. En fait, on a fait un ensemble de recherches à partir de 2014, nous-mêmes, sur le territoire des Hauts-de-France, pour étudier notamment dans le contexte scolaire, mais pas que, aussi au sein d'entreprises, pour comprendre comment les salariés on incite les salariés à se comporter d'une telle façon vis-à-vis de la nourriture. Et donc, lors de ce colloque, on a eu le bonheur de pouvoir accueillir des chercheurs dans des domaines différents, des sociologues, un historien qui a fait, Didier Nourisson, qui a une trouvaille, en fait, il a découvert un fonds de films fixes, enseignement peu connu, peu étudié. Et donc, il y a tout un ensemble de travaux qui commencent à être mis en place autour de ce support qui a été utilisé entre les années 30 et des années 70 et qui a changé la relation à l'image en enseignement. On a souhaité un peu valoriser les travaux de ce colloque et c'est un peu l'origine. On a contacté l'éditeur Bloomsbury qui nous a donné le feu vert pour faire retravailler les communications, essayer de construire quelque chose ensemble à partir de ces contributions. On a organisé ça en deux parties, une partie consacrée aux médiateurs, aux nouveaux médiateurs, aux médiateurs anciens qui sont responsables pour la création d'informations sur l'alimentation, et une partie sur les appropriations. Mais c'est vrai qu'il y a un fil chronologique. On commence avec un chapitre qui remonte à l'Antiquité, c'est-à-dire comment les connaissances sur l'huile d'olive dans la tradition de la méditerranéenne ont été transmises et toute la symbolique autour de l'huile d'olive est en risque d'éperdition face aux politiques publiques nutritionnelles qui classent l'huile d'olive, qui diabolisent un peu l'huile d'olive en fait. Et donc c'est vrai qu'il y a un fil conducteur dans l'organisation des chapitres qui passe ensuite au XVIIe siècle, au livre ancien, mais dans certains des travaux il y a aussi le récit de controverses. Et ce qui est intéressant de voir, le chapitre de François Allard Huvert, c'est un exemple. C'est un collègue qui travaille sur la médiatisation des controverses et des scandales en lien avec l'alimentation. Et il montre dans la diachronie, même si c'est sur plusieurs mois, en fait, comment le fil narratif, le fil sur les controverses de, par exemple, E. coli et la viande de bœuf, de viande de cheval, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez un souvenir de tout ça. Et donc il a dépouillé tous les articles en France et en Allemagne sur ces controverses pour montrer un peu comment, une analyse actantielle, qui sont les bons, les mauvais, comment les bons et les mauvais ont été construits par la presse. Et donc on a petit à petit construit cet ouvrage. Il fallait aussi traduire certains des textes en français parce que les auteurs sont en partie francophones, etc. Donc c'était intéressant et ça nous a fait réfléchir sur les termes qu'on utilise. C'est-à-dire on a beaucoup réfléchi comment traduire la notion de médiateur, intermediary. Bon, c'était aussi une discussion épistémologique sur le passage en anglais de termes qui se sont naturalisés en sciences de l'information et de la communication. Un exemple, c'est le terme de trivialisation qui est très utilisé en SIC. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce terme-là. Et ça ne passe pas facilement en anglais. Donc, on a décidé de expliquer ça, de le contextualiser, de privilégier d'autres termes.
C'est vrai que le premier thème a en plus un titre très accrocheur, Athéna, Jésus-Christ et les feux de circulation. L'histoire et l'anthropologie de la connaissance autour de l'huile d'olive. Bon. Alors, c'est vrai que donc on a cette construction en deux parties. D'abord autour de tout ce qui est médiation pour commencer, puis donc un mouvement vers plutôt l'appropriation, mais avec toujours des thèmes en fin de compte qu'on retrouve dans toutes les interventions autour de l'idée de l'autorité, de la légitimité également, et le rôle de la médiatisation, qu'elle soit par les vieux livres ou les films, ou même donc dans votre propre intervention enfin, écrit à quatre mains, cinq mains, pardon, donc sur les vitamines dans notamment les écrits scolaires et de biologie. En fait, on a toujours ce prisme de regard en face donc de l'autorité et avec une volonté réellement de regard international. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve des études sur l'Amérique, sur la France, sur l'Espagne notamment et entre autres. Et en fait, dans votre propre item, donc sur les vitamines dans les ressources à l'école et dans la publicité autour de la nourriture et de l'alimentation, vous évoquez notamment le programme de ce qu'on appellerait aujourd'hui SVT, hein, Sciences de la vie de la Terre, anciennement donc, et surtout dans la période regardée, la biologie, et les enjeux donc, pour la santé publique, l'intérêt scientifique, etc. Et j'aimerais poser une ou deux questions déjà sur cette partie donc, qui est écrite en partie de ta main avec quatre auteurs. Comment est-ce qu'on écrit quatre autres auteurs? Oui. Parce que dans le domaine scientifique, un tel fait cette expérience, oui. L'autre ici. Oui. Or, le résultat est quand même assez lisse. C'est clairement, il y a une narration, une comparaison, mais qui est complètement assumée et claire. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour
le faire? Oui, c'était compliqué, mais en fait, c'est des complices de longue date, ce petit groupe-là, de didacticiens spécialistes de la didactique des sciences. Donc, je ne peux pas regarder un manuel sans échanger avec eux, en fait. Donc, c'est une complicité de très longue date. Ils ont une connaissance fine, non seulement des programmes, mais des mécanismes de transfert des connaissances dans les situations scolaires. Ensuite, il y a donc autre complice de très longue date, Simona de Julio et sa doctorante qui travaillent ensemble sur un corpus de publicité que Simona a eu de très bonnes idées de constituer avec plusieurs années, tiré de magazines féminines. Donc Paris Match, non, c'était pas Paris Match,
elle
et Paris Match. Et donc l'idée, c'est qu'elle a fait elle a constitué un corpus et elle travaille toujours sur ce corpus qu'elle a constitué une dizaine d'années dans le cadre d'un projet ANR. Et donc c'est une véritable mine d'informations, donc ce qui nous a permis de comparer des corpus assez peu comparables en fait, ou peu assez rarement comparé des manuels scolaires et la presse, la publicité dans la presse féminine pour savoir comment cette substance impossible, difficile à représenter dans la vulgarisation scientifique, la vitamine, qui était une découverte majeure qui a changé la façon de communiquer sur l'alimentation, qui a changé la manière d'informer et de communiquer sur l'alimentation. Parce qu'auparavant, avant la découverte des vitamines au début du XXe siècle, l'idée c'était de comparer le corps humain à une sorte de moteur où il faut bien nourrir, il faut l'énergie, créer un équilibre entre l'énergie qui est consommée et l'énergie qui est dépensée. Et donc avec la découverte de la vitamine, on voit qu'il y a des substances qu'on ne voit pas et qui aussi, dont leur qualité, influencent la santé. Et donc ça crée tout un imaginaire sur la santé qui a changé. Et donc notre objectif dans ce chapitre, rédigé vraiment à cinq mains, à grands coups de réflexion, de rédaction, c'est pas un chapitre parfait, c'est perfectible, je pense qu'on peut aller plus loin. Pour comparer donc ces deux types de supports très différents, avec une rhétorique très différente, parce que tout l'euphémisme autour de la publicité pour montrer que la vitamine c'est le secret du bonheur, de la santé, et donc certains produits qui intègrent des vitamines mettent en avant la présence des vitamines qui sont impossibles à représenter, c'est donc un vrai défi pour la vulgarisation. Par rapport à ça, les manuels scolaires misent sur un discours très très noir, de prévention, de mise en danger, avec des photos qui montrent les dangers pour la santé, qui sont tirés d'expérimentations lugubres du début du XXe siècle. On montre le danger de, et les effets sur le corps de l'absence de vitamines. Voilà, donc on a voulu confronter les acteurs, les éditeurs, les enjeux, les formes d'autorité qui sont créées autour de ces deux types de supports très très différents.
Et voilà. C'est vrai que c'est intéressant la façon dont on voit que ces textes, vous le dites, hein, qui sont créés par des enseignants du domaine secondaire bien éduqués ou des inspecteurs régionaux d'éducation, d'ailleurs que vous présentez un peu comme des autorités réelles, c'est peut-être discutable par rapport à la science, mais ce qui est intéressant en fin de compte, c'est que ces manuels ne sont pas du tout des manuels de science, des manuels, je dirais, de développement de connaissances, mais ce sont des manuels dans lesquels, en fait, on fait un genre de prévention de la santé publique.
Oui.
Et en fait, c'est quasiment comme on se sert des cours pour dire aux gens comment ils doivent bien se nourrir, plutôt qu'en fin de compte, ce qui est réellement en train de se passer.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout cela en même temps. Il y a des contenus scolaires qui sont très proches des programmes, mais aussi un devoir de faire le relais des politiques publiques. Et donc l'hygiénisme est très, et le discours hygiéniste va dominer pendant très très longtemps, c'est-à-dire l'État va vous dire comment il faut rester en bonne santé, et petit à petit ça va céder à une responsabilité des individus. Donc ça c'est pour les manuels plus récents dont on n'a pas beaucoup parlé dans ce chapitre-là, mais d'autres travaux ont montré combien effectivement les manuels deviennent une sorte de relais des discours des politiques publiques et le discours du PNNS, je ne sais pas si vous connaissez le programme national nutrition santé, qui, comme certains chercheurs ont montré, ne marche pas très bien comme discours. Voilà, c'est fondé sur l'idée d'une communication engageante où on va pouvoir changer le comportement des individus. Il suffit de dire, ben voilà, pour rester en bonne santé, il faut manger de telle ou telle façon, sans prendre véritablement en compte, c'est simplifié un peu, mais sans assez prendre en compte la réalité sociologique, la réalité sociale, la réalité familiale, culturelle des individus. Donc voilà, c'est un peu l'ambiguïté des manuels scolaires.
C'est intéressant comme source, parce qu'en fin de compte, c'est une source qui est relativement peu utilisée globalement pour comprendre, je dirais, l'interface qu'on peut faire, le rôle de médiation. Et c'est typiquement le genre de livre que l'on désherbe, que l'on jette, parce que ça a une date de péremption relativement claire, c'est un ouvrage scientifique, on les considère comme dépassés, ils ne sont plus le programme. Donc la première question, c'est déjà, où est-ce que vous les avez trouvés? Comment est-ce que vous avez identifié? Parce qu'évidemment, ils ne sont pas dans les bibliothèques.
À notre grand désespoir. C'est-à-dire, j'ai couru un peu auprès des bibliothèques d'INSPE à un certain moment. Il y a des petits fonds patrimoniaux dans certaines bibliothèques à Arras. Mais surtout, il y a la bibliothèque de l'éducation à Rouen. Il y a d'autres fonds patrimoniaux de manuels, mais c'est effectivement difficile d'accéder à ces manuels. Il y en a certains qui sont numérisés, accessibles en ligne, mais c'était le hasard un peu des rencontres en ligne qui nous ont permis de voir. C'est très important de pouvoir accéder aux fonds d'images utilisés, à l'évolution de ces manuels. Donc c'est très intéressant. Aussi intéressant de le regarder que d'aller comme on l'a fait au sein des classes pour voir comment aujourd'hui les enseignants captent utilisent des affiches. Donc on a eu l'occasion de voir comment, quelle autorité ils accordent à ces documents. Et le peu de connaissances, en fait, ils ne sont pas trop formés là-dessus. Donc c'est un peu, c'est compliqué pour eux. Et donc ils sont prêts à accorder une autorité sur des objets qu'ils n'ont pas pris le temps, n'ont pas le moyen de décortiquer. Et un exemple, c'était une affiche proposée par une nutritionniste qui est venue dans le cadre de l'éducation à l'alimentation dans une école primaire, et que l'enseignant qu'on a interrogé ne s'est pas rendu compte que c'était une affiche préparée par un lobby des producteurs de lait. Donc ça, on n'en parle pas dans le livre, mais voilà, donc on a la mise en avant des produits laitiers de façon très subtile, et on voit comment le discours commercial, pédagogique, biomédical, hygiéniste se mélange dans ces... Donc il y a une archéologie des discours, si bien qu'une archéologie des supports à analyser qui est, qui est intéressant.
Dans l'ensemble du volume, donc, c'est ce rôle donc, de l'interface entre connaissance et grand public. Il est un des thèmes, hein, on l'a dit, et on le voit voilà, en dehors du cas donc, de l'huile d'olive, aussi dans le rôle donc, des livres médicaux du XVIIe siècle, à travers du coup, toute une série de médias différents jusqu'à aujourd'hui. On regarde le médium, on parle parfois de l'accès au médium à travers les classes, etc. Il y a un aspect qui est absent et que du coup, évidemment, je mets le doigt dessus, notamment dans cette auguste institution, qui est la bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque dans la considération du rôle des bibliothèques, donc dans l'achat, dans ce qu'ils proposent en termes de la modulation et de leur rôle aussi de représentativité de la connaissance plus large ou justement plutôt d'une vision telle que le manuel scolaire, c'est-à-dire en fait de prévention, etc. Et également, alors il y a un index qui est fait également par thème, hein, donc c'est très très bien, c'est ce qui est plus pénible à faire dans un livre, parce que bon, les noms propres c'est facile, et également le mot library, le mot bibliothèque n'y est pas. Alors, sans vouloir voilà, te coincer. C'était volontaire, c'est pour un autre volume, c'est en fait parce que la proposition ne s'est pas faite ou parce que en fait, pour toi et pour les autres personnes qui donc, ont écrit et également donc, Simon Derulio, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est très différent en fait, du thème abordé?
C'est vrai que... Alors qu'on a travaillé un peu sur les bibliothèques en milieu scolaire dans d'autres travaux, lors du colloque, il n'y a pas eu l'occasion de creuser. C'est un sujet qu'il faudrait creuser, effectivement, absolument. On a eu l'occasion d'interroger des bibliothécaires dans les médiathèques de Lille qui sont en partenariat avec des associations, avec des écoles, avec des groupes qui sont des médiateurs. Voilà. Donc on a eu l'occasion de voir comment les médiathèques préparent à la fois certaines collections sur les questions d'alimentation, comment les médiathèques aussi héritent de certains fonds, des objets, par exemple des menus, des objets qui appartiennent un peu à un passé gastronomique, patrimonial sur l'alimentation. Mais ça ne figure pas dans le livre, ça sera peut-être pour d'autres travaux à venir. Voilà, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler sur cette question pour d'autres travaux avant, notamment comment les kits thématiques qui sont préparés, enfin les kits thématiques, comment ça s'appelle, des choix thématiques qui sont développés et choisis par des médiateurs dans les bibliothèques et préparés pour les écoles. Donc un peu la logique derrière ce choix et puis un peu aussi à la dominance malgré tout du discours nutritionnel, nutritionniste qui domine malgré le désir et le souhait et l'intérêt pour d'autres aspects, parce que l'alimentation, c'est autre chose que la nutrition, c'est aussi le goût. Voilà. Donc, il y a des pressions diverses et variées qui pèsent sur les médiateurs, les bibliothécaires et autres.
J'avais toujours dit qu'il y aurait des questions.
Merci.
Qui n'étaient pas forcément...
Voilà. Non, c'est bien.
Voilà. C'est assez intéressant, parce qu'en fait, le livre est plein de petites pépites, hein, de divers endroits. On découvre des choses qui nous font rire aujourd'hui. J'aime beaucoup notamment une citation, donc... justement dans la partie sur le XVIIe siècle, où on cite un auteur en 1632 qui écrit que sa nourriture et son alimentation ne devraient pas être régies et modérées, enfin, devraient être régies et modérées par l'avis d'un prudent et judicieux médecin, et non pas l'appétit d'un tas de femmes lettres, de charlatans, d'ignorants empiriques. Et on rigole sur ces visions un peu anciennes, ces phrasées... aujourd'hui extrêmement gênant. Et puis on avance, et puis on arrive donc dans la période contemporaine, et on voit qu'en fin de compte, ces attitudes sont aussi assez prévalentes, et également le rôle encore de l'industrie aujourd'hui dans ce que vous avez pu déjà décrire dans le livre, même ce dont tu as parlé en évoquant le lait et les affiches sur le lait, donc de la question d'une pression, parce qu'on est dans un domaine où il y a non seulement l'industrie agroalimentaire classique, mais par exemple, quand vous parlez des vitamines, l'industrie de la vitamine aux États-Unis est énorme, hein, beaucoup plus même qu'en France. Pourtant, les gens se médicament fermentent beaucoup. Et je me suis demandé que, si du coup, en fait, il y avait eu un dialogue avec ces industries, ou est-ce que, autrement, ils pèsent sur ces débats, ou est-ce que c'est un truc qui ne les intéresse mais réellement pas du tout, et que, du coup, ils se disent qu'ils n'engagent pas avec ce type de réflexion.
Les industries agroalimentaires sont très engagées dans la question de l'éducation à l'alimentation. Et c'est une forme, parfois, de légitimation de leur action commerciale que de préparer eux-mêmes des documents éducatifs qui entrent dans l'école, finalement, qui entrent dans différentes sphères du travail, et voilà, donc je dirais que c'est une façon subtile maintenant d'essayer d'infléchir sur les activités des consommateurs. Donc il y a les fondations donc l'industrie agroalimentaire est de plus en plus impliquée. Donc les travaux de Simon Tullio, qui est spécialiste de la publicité, et des formes subtiles de la publicité qui sont très, très présents aujourd'hui.
Je pense aussi à la question de la recherche, c'est-à-dire qu'en fait, la recherche, notamment évidemment dans les sciences, mais également donc dans le domaine parfois des sciences humaines et sociales, sont touchées par aussi l'argent donc que peut mettre ces industries dans des projets de recherche qui cherchent à guider ou à influencer, ou sans avoir nécessairement des résultats précis en tête, oui, veulent néanmoins peser dans le débat. Oui. Et je me suis demandé si c'est un domaine où justement on le retrouve également dans la question donc de l'analyse justement de cette communication éducation.
Oui. En termes de recherche, Nestlé, pour un peu donner un exemple, a été un contributeur d'un projet NR dans lequel Simone et d'autres collègues anthropologues étaient impliqués sur les éléments ludiques. Et en fait, d'après les témoignages que j'ai eus, ils sont restés très neutres, en fait, malgré tout. Ils n'ont pas pesé. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On voit par l'implication de Coca-Cola, le mécénat qui est donné, ce n'est pas toujours le cas où il y a une neutralité. Et historiquement, voilà, il y a des exemples de recherche sur le tabac, par exemple, financé par... sur le stress au travail, notamment. Ce n'est pas l'alimentation, mais c'est plutôt sur la santé. Avant les grands procès des industries du tabac, il y avait des tabous sur les chercheurs qui osaient s'aventurer sur notamment des questions de stress et de bien-être, où il fallait pas parler de certains produits. Mais je pense qu'il y a un souci, voilà, de soutenir la recherche, donc dans l'ère où on parle beaucoup de transfert entre science et société, donc certaines des industries agroalimentaires par les fondations contribuent à la recherche, et nous avons pu bénéficier d'une petite contribution de Bonduel, je ne sais pas si vous connaissez, pour mener des recherches, mais là encore il n'y avait pas de pression pour influencer une quelconque aspect de la manière dont on abordait la recherche. Voilà.
Donc tu n'as pas été corrompu toi-même, on t'a pas amené des gros sacs de cash que tu as, voilà, tout dont tu t'es servi pour acheter ta dernière voiture.
Et c'était vraiment très peu de cash, en fait, et c'est un intérêt pour eux, pour, je ne sais pas, réduction de leurs impôts dans les fondations. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des acteurs particuliers au sein de ces entreprises qui sont les médiateurs pour un intérêt pour la recherche. Donc, on a eu l'occasion d'échanger avec une diététicienne qui a un intérêt pour la recherche et qui a facilité la chose pour nous, parce que c'est vrai qu'il y a un souhait parfois de promouvoir certains types de recherche, peut-être dans les sciences cognitives, parce qu'il y a l'idée qu'on peut changer les comportements d'une façon, faciliter les changements de comportement. Mais grâce à l'intervention de certains interlocuteurs, on a pu mettre en avant notre approche plus anthropologique, plus questionnante, voire plus critique sur la recherche. Donc, voilà.
Bonne réponse, on n'aura pas besoin de couper la dernière question pour le montage, pour le podcast. Eh bien, on va s'arrêter là dans mon questionnement à moi, et je vais du coup l'ouvrir au public, et bien sûr du coup arrêter l'enregistrement, et tu pourras leur dire la vérité.